Earth is ghetto, I wanna leave, can you beam me up? Bonjour, c'est Ramaya, je fais partie de La Dispersion, une librairie d'art et de pensée critique à Genève, dans le quartier de Plainpalais. Le 11 avril 2024, nous avons accueilli Charlotte Ouette et Clara Pacotte à la librairie, donc deux artistes et chercheuses françaises. Elles ont fait le chemin depuis Paris pour nous présenter le livre « L'exoplanète féministe » paru en ce début d'année aux éditions Cambourakis. « L'exoplanète féministe » est un recueil de lettres, d'essais et d'archives de l'autrice lesbienne états-unienne de science-fiction Joanna Russ.
Lettre de Joanna Russ à Alice B. Sheldon du 15 octobre 1973. Évidemment que je ne garde jamais de copie carbone. C'est pour que tous mes correspondants se sentent coupables et conservent mes lettres, comme je conserve celles des autres. Dans 100 ans, des chercheuses stupides mais méritantes parcourront le monde en essayant de reconstituer ma correspondance et en me maudissant tout bas. Ce n'est pas leur affaire de toute façon.
Je voulais commencer par qu'on parle de ce projet EAPS, parce que c'est de là d'où tout vient. Comment ça a commencé et qu'est-ce que ça veut dire, ce mot un peu mystérieux?
Ben, l'acronyme, ça veut dire exploration des alternatives arrivantes de provenance extrasolaire. C'est complètement inventé et c'est parce qu'en fait, on a commencé à travailler avec Charlotte en 2017, donc, parce que Charlotte, elle avait créé une sorte d'école alternative qui s'appelle The Cheapest University. Et tu veux dire un peu ce que c'est?
Ouais,
vas-y,
commençons par ça. Oui, avec d'autres amis artistes, on a fait ce projet ensemble, donc The Cheapest University, qui était un projet dans lequel on organisait des workshops, des groupes de lecture, enfin bon, des book clubs, enfin il y a plein de choses très différentes, avec des invitations d'artistes, de théoriciens, théoriciennes, enfin il y a beaucoup de choses mélangées. Et on avait à disposition un lieu à Paris qu'on pouvait utiliser comme résidence pendant 6 mois, c'était au carreau du Temple, et qui est un lieu plus normalement pour accueillir des organisations sportives ou je sais pas, il y a aussi un auditorium grand, enfin bon bref, on pouvait faire un peu des formats différents quoi de ce qu'on peut voir plus dans l'art contemporain, on va dire. On avait aussi décidé de ne pas utiliser de réseaux sociaux, donc c'était vraiment du bouche à oreille. Pardon, il y avait juste un site internet et voilà, par bouche à oreille les gens savaient s'il y avait un projet, un programme ou quelque chose. On avait décidé de faire une sorte de programme dès le début et dans ce programme là moi, j'avais envie de faire quelque chose autour de la science-fiction. Et là, j'ai rencontré Clara. Et tu peux dire la suite.
En fait, Charlotte, elle avait une collection de fanzines qui s'appelle Fiction, qui était un fanzine qui était publié entre les années 50 et les années 90,
oui,
en France, par Opta. Et c'était des traductions, la plupart du temps, c'était des traductions de nouvelles qui venaient de l'étranger en français. Et en fait, elle avait cherché les femmes qui étaient publiées dans ces fanzines, qui étaient très peu nombreuses. Et elle était tombée sur une nouvelle de Joanna Russ, justement. Moi, à l'époque, j'écrivais déjà de la science-fiction et on a commencé à parler de ça et à un peu se renseigner sur Joanna Russ. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur le livre qui s'appelle « To Write Like a Woman », qui est un livre qui compile plein d'essais de Joanna Russ sur, justement sur les questions de la place des femmes dans la science-fiction. Mais ça veut dire les conditions de travail des autrices, les formes de science-fiction qui existent, les utopies, tout ça, même des critiques d'écrits masculins aussi. Et en fait, on s'est dit, vu qu'on a quelques mois pour faire des ateliers, etc., en plus de, des projections de films qu'on voulait faire et tout, on s'est dit, ce serait bien de donner accès à ces textes-là en français, puisqu'ils n'existaient pas, enfin, ils n'étaient pas traduits, et donc de faire des ateliers de traduction un peu collectifs. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur ses écrits à elle, plus que sur sa fiction, en fait, parce que il y avait quelques textes de fiction qui existaient en français, mais ils étaient pour la plupart traduits assez bizarrement, parce que traduit par, dans les années 80, peut-être un peu à la pelle, et souvent on perdait un peu le sens du texte et tout ça. Et donc on choisissait un peu des essais comme ça qu'on avait envie de traduire, et on le faisait soit en petites parties, soit on s'entraidait les unes les autres. On était parfois 4, parfois 15.
Ouais, ça dépendait.
Ouais.
Bah, ça fonctionnait vraiment comme un book club, quoi. Faut s'imaginer un peu ça, je pense. Et un groupe de traduction collectif. Et petit à petit, donc, on a accumulé pas mal de documents, même d'images, de recherches sur Internet, d'interviews. Faut aussi se dire que, je pense, en 2017, aujourd'hui, il y a vraiment... on parle beaucoup de la science-fiction féministe. Enfin, il y a... On voit plein de choses là-dessus, des documentaires, on en parle beaucoup plus, mais je crois qu'il y a vraiment au moment où nous, on est... Enfin, c'est pas prétentieux quand je dis ça, mais c'est vrai qu'au moment où on a fait, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Donc c'était assez amusant de découvrir, et il y avait beaucoup de choses autour de sur Ursula Le Guin, ou des choses comme ça, mais vraiment rien sur Rust, quoi. Enfin, pour nous, c'était vraiment... On découvrait ça. Et il y a aussi quelque chose d'autre qui s'est passé qui est important... qui fait, enfin toi, pendant t'étais étudiante à ce moment-là, oui. À Cergy, à l'école de Cergy, et t'es partie dans une des conventions à la WISCON, qui est une, ouais. Tu peux en parler aussi peut-être si tu veux.
Bah c'est une convention, enfin je sais pas si vous voyez ce que c'est les conventions, mais c'est aux États-Unis surtout, enfin dans les pays anglo-saxons quoi, où c'est des sortes de ce qu'on appellerait ici un peu un festival, je pense, mais c'est des moments où il y a plein d'auteurs et d'autrices des qui sont invités, des tables rondes, des éditeurs et des éditrices qui viennent vendre leurs bouquins. Enfin, je pense qu'en France ou en Suisse, on appelle ça un festival plutôt, mais là-bas, c'est plus... c'est une forme qui est un peu plus institutionnalisée, dans le sens qu'il y en a beaucoup et beaucoup dans le milieu de la SF. Et en fait, moi, quand je suis partie à Madison, c'est parce qu'il y en a une spécialement qui a été créée par un groupe de meufs dans les années 70, et qui avait expressément comme but de parler de SF féministe avec aussi les thèmes de l'homosexualité qui étaient inclus. Donc au fur et à mesure, c'est devenu un peu plus queer, etc. Et c'était tout autogéré, tout les budgets venaient des membres, les programmations, etc. Donc pour nous, c'était intéressant aussi de voir ce modèle-là. Parce qu'il y a longtemps, on se disait un peu que peut-être un jour, on allait faire quelque chose comme ça en France. Enfin, on ne savait pas trop. Et c'est surtout que c'est un endroit où chaque année est remis un prix qui, à l'époque, s'appelait le prix James Tiptree, qui récompensait les écrits de science-fiction qui traitaient justement des questions de genre. Et ce qui n'existait pas du tout en France. Et nous, comme on avait commencé à un peu diguer sur toutes les autrices qui gravitaient autour de Joanna Russ et d'essayer de trouver des choses plus actuelles et tout, c'était hyper intéressant d'aller là-bas pour voir ce qui se faisait aussi.
Sachant que la WISCON aussi, elles ont édité beaucoup de livres où il y a toutes les archives de leurs interviews depuis, c'est quand, dans les années 70, quoi, je pense.
Ouais.
Dans le milieu des années 70, donc jusqu'à aujourd'hui, puisque ça existe encore. Donc il y a... C'est une source incroyable, enfin, pour retrouver des textes,
des trucs d'écrivains
ou d'écrivaines qu'on voit plus, en tout cas, voilà, dans la science-fiction.
Et en fait, au fur et à mesure, au bout d'un an et demi à peu près, en fait, on avait accumulé tellement de textes, d'articles de blog, d'interviews, de podcasts et tout.
Je peux te le faire passer, si tu veux.
Qu'on s'est dit bah ce serait bien de le rendre accessible à plus que notre petit groupe de travail où en vrai je pense que ça regroupait peut-être une vingtaine de personnes entre de chaque tous les gens qui venaient quoi. On s'est dit qu'on allait publier nos recherches mais avec toujours la version originale parce qu'aucune de nous n'était traductrice ou traducteur professionnel et donc on voulait quand même que si les personnes avaient envie d'améliorer notre travail de traduction, ça soit possible. C'est aussi pour ça qu'on a choisi une forme à la base qui était très, comment dire, un peu lo-fi, quoi. Enfin, c'est juste des feuilles A4 imprimées en noir et blanc avec...
C'était vraiment... Ouais, on n'avait pas beaucoup de moyens. Le seul truc qu'on avait, c'est que c'était... comme on était une association avec T-Post University et Raps, au final, En face du carreau, il y avait la maison des assos, donc une photocopieuse avec un toner gratuit qu'on pouvait utiliser. Donc je pense qu'au départ, on a dû en éditer une soixantaine, quoi, max, comme ça. On a dû en sortir une soixantaine.
Ouais. Ce qu'en France, en tout cas à l'université, on appelle un syllabus, c'est un peu... ça se présente un peu comme ça en vrai, mais plutôt genre agrafé.
Un reader dans les universités américaines. Quoi, mais...
C'est un peu le cumul de tous les textes qui vont être étudiés pendant un semestre ou pendant une année dans un cours en particulier. Donc on a un peu repris cette forme de texte photocopié. Voilà.
C'est soit des extraits de textes, soit des textes qui n'étaient plus édités. Ou soit nous, on allait justement avec les ventes des readers, on rachetait, on a créé une sorte de bibliothèque comme ça. De bouquins qu'on retrouvait, qu'on allait un peu diguer dans Paris ou sur Internet. Enfin, il y avait plein de choses, quoi. Et sans avoir les droits. Donc, c'était quand même assez pirate parce que... Mais bon, c'est des extraits, quoi.
Enfin, les essais, on les a traduits en entier, quoi.
Justement, dans le premier... on avait mis un extrait que Dorothy Allison a écrit, justement, sur Joanna Russ. Et là, normalement, on ne fait jamais ça. Mais bon, on avait mis un extrait, c'était tellement notre sujet... On a mis cet extrait-là et qui était Scan de chez Cambourakis. Si elle le voit, c'est pas grave. En fait, au contraire, elle, ça lui a fait très plaisir qu'on partage ça. Du coup, elle nous a dit, faisons un livre ensemble. Donc.
Depuis le début, nous, notre idée, c'était quand même aussi d'essayer d'actualiser un peu... d'actualiser, de mettre en regard les pensées féministes des années 70-80 avec des choses plus contemporaines. Donc, on est directement quand même allé mélanger dans les readers... des choses qui étaient hyper contemporaines. C'est pour ça que je disais tout à l'heure des articles de blog ou des podcasts ou des choses comme ça, parce que ça pouvait être des choses qui étaient sorties il y a un mois, qu'on mettait juste après un texte qui datait des années 70 et qui pour nous était quand même assez primordial, dans le sens où, vu que c'est des réflexions qui évoluent très rapidement, il y a des choses qui sont aussi hyper dépassées. Et qui à l'époque était plutôt hyper progressiste, par exemple, et que c'est, enfin, pour nous c'était important aussi de pas rester figé dans un truc un peu de fantasme passéiste un peu, voilà.
Extrait 2. Chers collègues, je ne suis pas un homme honorifique. Je te connais, toi, t'es un bon gars, tu crois en un salaire égal pour un travail égal, bien que tu ne saches pas toujours pourquoi. Et tu as fait tout ton possible pour intégrer une femme dans l'entreprise, le ministère ou les affaires. Tu aimerais peut-être même que les hommes puissent porter des couleurs plus vives et ou assumer moins de responsabilités. Tu aimes aussi les femmes libérées. Après tout, qui n'aimerait pas les femmes indépendantes, intelligentes et ayant de la conversation? Les féministes te déconcertent. Elles ne veulent certainement pas être traitées comme des femmes, mais il semble maintenant qu'elles ne veulent pas non plus être traitées comme des hommes. Qu'est-ce qu'elles veulent? Mon Dieu, que veulent les femmes?
Pourquoi Joanna Russ? C'est pas parce que vous n'avez pas que traduit, elle vous a traduit plein d'autres traits.
Après, je pense le deuxième exemplaire, on a pu partir en voyage de recherche dans les archives de Joanna Russ, qui sont l'université à Eugene, l'université d'Oregon, où ils ont donc toutes les archives de Russ, de qui d'autre, de Ursula Le Guin et de Tiptree aussi. Enfin, en tout cas, là-bas se retrouvent toutes ces personnes.
C'est beaucoup plus des archives.
Et là, c'est vraiment les correspondances entre elle et d'autres auteurs et autrices autour, qui étaient en popularisation autour d'elle, dont Samuel Delany, James Tiptree, beaucoup, qui d'autres, il y en avait plein, quoi, je sais pas.
Oui, il y en a.
Tout ce qui est dans
En fait, c'est juste que d'un coup, ça a amené une dimension plus au projet qui sortait un peu de la SF, parce que d'un seul coup, on s'est rendu compte aussi de toute l'espèce de d'économie aussi des autrices de l'époque et de plein de choses et de considérations plus personnelles, parce que dans ces lettres, il y a beaucoup de réflexions sur avec Delany, il parle beaucoup de racisme, d'homosexualité, tout ça, et donc en fait, ça sort un peu de la SF parce que c'est des lettres. C'est personnel, ça a pas forcément, ils sont pas tout le temps en train de parler de ce qu'ils écrivent, quoi. Mais pour nous, c'était assez émouvant aussi de trouver ça parce que on avait tellement lu ces textes théoriques que d'un coup ça devenait un peu une vraie personne et je sais pas, c'était... C'est aussi pour ça que oui, quand on est rentré, Isabelle, qui est Isabelle Kambourakis, qui édite cette collection, elle, je pense, c'est ça aussi qui lui a plu, c'est que c'était pas juste de la traduction théorique, quoi.
Oui, ça parlait vraiment d'une écrivaine de science-fiction dans les années... Enfin, entre fin 70 et jusqu'à...
2000.
Jusqu'à 2000, quoi. Voilà, comment elle vivait, avec qui, de quoi... Qu'est-ce qu'ils échangeaient, enfin, c'est très intime quoi, au final.
Johanna Ross à Dorothy Allison, le 11 janvier 1996. Ce que j'ai toujours voulu, c'est savoir que ma fiction avait fait une différence pour quelqu'un d'autre, qui en avait vraiment besoin, qu'elle portait un message important. Lorsque j'ai écrit les récits d'Alix, je ne savais pas encore quel était ce message, mais je savais qu'il était là. Je savais qu'il y avait quelque chose de sacré dans le fait de raconter des histoires et que, comme je me le disais à l'adolescence, je devais dire la vérité, même si les cieux nous tombaient dessus. Je l'ai dit en ces termes. D'une certaine manière, c'était crucial. J'ai eu une famille de classe moyenne inférieure, très respectable, hétérosexuelle au possible, et il m'a fallu des années pour me remettre de cette famille. Personne n'était manifestement cruel, et personne n'était physiquement violent, mais la quantité produite de mensonges purs et simples était impressionnante. Je suis heureuse que nous nous en soyons toutes les deux sorties plus ou moins vivantes. Je pense que beaucoup de lectrices de SF le sont, parce qu'elles ont besoin de ce genre de choses.
Et du coup, qu'est-ce que vous aviez découvert sur elle? Parce que là, c'est vraiment comme un enchaînement d'essais, de lettres personnelles, de lettres, enfin, ou de même une lettre ouverte qu'une personne a écrite. Enfin, c'est vraiment une sorte d'histoire qui se déroule.
Une des parties, moi, qui m'a beaucoup intéressée, c'est la correspondance, justement, avec Alice Sheldon. Donc, depuis tout à l'heure, quand on parle de James Tiptree, en fait, James Tiptree, c'est un pseudonyme de Alice Sheldon, qui était aussi une écrivaine de science-fiction, mais qui a travaillé pour la CIA, qui a été peinte, qui est un personnage assez fou. Et du coup, ce qui est assez incroyable, c'est que ces deux personnes s'échangent des lettres, mais il y en a des milliers sur combien d'années
20 ou 30 ans.
20 ou 30 ans, sachant qu'il y a une grande partie où, quand elles s'écrivent avec Johanna Russ est persuadée que Tiptree est un homme. Entre-temps, elle en parle à Delany, elle dit « Non, mais quand même, tu te rends compte de ce qu'il me dit ?» Enfin bon, ça fait un peu potin comme ça, mais c'est très amusant. Et puis après, au final, elle découvre que c'est une femme. Enfin bon, il y a plein d'histoires comme ça. Et puis elles échangent sur leur écriture. C'est quand même des personnes aussi...
Très lettrées,
qui parlent aussi beaucoup de l'université, enfin de la littérature, qui échangent sur d'autres écrivains de science-fiction. Autant il peut y avoir une lettre entière sur K. Dick. Enfin, du coup, c'est des choses comme ça qui sont assez passionnantes et qu'on peut voir que là, en fait, que dans ces correspondances. Parce que moi, personnellement, je ne connais pas de livre ou de film qui parle de ce moment-là, quoi. Et puis surtout, la science-fiction, je pense, à cette période-là, était assez importante et foisonnante, quoi, avec que ce soit autour de grands écrivains, comme on dit à la FNAC, on va dire, Asimov ou K. Dick, tout ça. Mais c'est assez drôle parce qu'elles en parlent, elles aussi, elles donnent leur point de vue là-dessus, quoi.
Mais aussi, on rentre dans tout ce qui est autour, un peu toutes ces conventions, justement, comme tu disais.
Ouais.
Et du coup, c'est vraiment tout un univers qui se déroule. Et moi, j'avais aucune... Je suis pas à la base une fan de science-fiction. Du coup, j'ai plongé dans toutes les discussions sur la technologie, sur toutes ces choses. Et comment ça a été... comment le choix a été fait, en fait, pour quels accents...
Pour le livre,
ouais, comment vous avez...
Moi, j'étais pas non plus la personne qui connaissait tout Star Trek par cœur, mais le fait que la manière dont elle en parle, le texte de Dorothy Allison, il est aussi là-dessus. Mm-hmm. Et en fait, c'est assez chouette parce que ça te donne envie d'aller voir. Déjà, c'est un truc qui fait vraiment partie de la science-fiction. Je pense que presque, c'est cool de le découvrir et de connaître tout. Justement, à travers ces essais théoriques qu'elle a écrits, la manière dont elle en parle, elle donne envie d'un peu d'aller piocher à gauche, à droite, d'aller voir d'autres trucs et de rebondir sur le point de vue de quelqu'un d'autre. Enfin, parce que du coup, elle les échange beaucoup là-dessus. Donc, c'est peut-être là-dessus, c'est là-dessus que nous, on a...
Puis puis vous mettez aussi plein de notes, vous. Enfin, il y a aussi plein d'explications si on comprend pas. Et aussi,
oui,
enfin,
on a rajouté pas mal de notes, oui.
Puis moi, Star Trek, ça m'a jamais vraiment attiré. Et là, tout d'un coup, vraiment, on se dit.
Le fait qu'on dise qu'il soit gay, que peut-être ça t'a attiré.
Non, mais après, il y a aussi. Parce que dans le livre, il y a un livre. Il y a un texte aussi de Dorothy Allison. Une lettre où elle écrit à Joanna Russ. Et ce qui est trop bien, enfin moi j'ai trouvé, c'est que déjà ça répond au livre qu'elle a écrit, Poe, dans lequel il y a cet essai où elle parle de Star Trek et comment elle a découvert sa propre sexualité un peu BDSM par des fanfictions de Star Trek. Et en fait, on voit qu'elle écrit à Joanna Russ pour lui témoigner à la fois son amour de son écriture, mais aussi genre tout ce qu'elle lui a apporté d'ouverture au monde, etc. Et en fait, on se rend compte que toutes les deux ont traité un peu les mêmes sujets sans... Enfin, on ne sait pas si Dorothy Allison, elle avait lu exactement cet essai avant et tout, mais on voit quand même qu'il y a une sorte de ramification un peu partout entre des autrices qui ne sont pas exactement de la même époque, et c'est quand même assez fou. Enfin, ça donne envie, en tout cas, d'aller fouiller partout, quoi.
Ouais, moi je pense, en plus c'est assez enfin au final c'est assez abordable, enfin je pense que oui, enfin de toute façon ça reste, enfin moi je pense qu'on va pas non plus le cacher, ça reste quand même quelque chose qui est comme une niche dans la science-fiction, qui est, mais bon, la science-fiction c'est jamais simple d'accès en général, quoi. Mais au final je trouve que justement c'est presque plus facile d'accès, quoi, enfin en passant par des choses intimes aussi, quand on lit ces lettres-là, ça donne envie d'aller lire les... Parce que justement, elle parle de ça, elle dit, moi, font des listes de livres à lire, quoi, aussi. Il y a des choses comme ça, enfin... Donc, par exemple, si on veut se mettre dans la science-fiction, je trouve que c'est pas mal de commencer par ça, quoi, en tout cas.
Dorothy à Joanna, 23 février 1996. Tes nouvelles d'Alix et les créations de Samuel Delaney sont pour beaucoup... dans la façon dont j'ai survécu à la fin de mon adolescence tardive, dans la vingtaine, cette décennie où j'étais censée être adulte, mais ne l'étais pas. Simplement parce que je n'avais aucune idée ce que signifiait être adulte. J'aurais préféré être une fille secourue par Alix, ou prise comme équipage par Rida Wong dans Babel 17. Comme tu le verras, j'ai emprunté mon adresse électronique à l'héroïne de Delaney. J'ai toujours aimé l'idée que pour sauver l'univers, elle ait dû créer une nouvelle langue. C'est très proche de ce que font les auteuristes, me semble-t-il.
Mais du coup, ça parle vraiment beaucoup de science-fiction féministe et qu'est-ce que ça apporte à plein de gens. Enfin, c'est vraiment une grosse discussion autour de ça et je me demandais si vous pourriez peut-être nous en parler de ce qu'elles ont essayé, toutes ces autrices en réseau, qu'est-ce qu'elles ont essayé de mettre en place, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qu'elles critiquent dans... Parce qu'il y a beaucoup de critiques aussi de la science-fiction non féministe.
En tout cas, c'est un point de vue très de Joanna Russ, ça. Enfin,
oui. Après, il y a un essai spécialement dans le livre qui s'appelle en anglais, qui s'appelle Recent Feminist Utopias, qui est donc en fait vraiment une sorte d'article comparatif entre elle prend 10 exemples de fiction écrite par différentes autrices et un texte de Delaney. Et où elle catégorise vraiment, où elle va parler par exemple du rapport à la famille, donc où on s'éloigne de la famille nucléaire en général. Elle essaye d'analyser tous les textes et de faire ressortir un peu des tendances. Mais du coup, c'est quand même assez vieux parce que c'est les années 70, enfin peut-être son essai date de 80 ou un truc comme ça. Elle parle de l'organisation sociale aussi, du rapport au travail... même au voyage, comment on envisage l'espace autour de soi et les distances, etc. Bon, c'est quand même des tendances qui existent encore dans la SF aujourd'hui, parce que là, elle parle d'utopie spécifiquement, où elle décrit, en fait, elle met en regard des utopies masculinistes qu'elle a lues, où en fait, les femmes n'ont aucune place et qui ne reposent d'ailleurs que sur l'asservissement des personnes assignées femmes, quoi, et donc elle donne des exemples très concrets, et moi je pense que ça c'était un peu une porte d'entrée aussi pour nous, parce qu'elle fait si elle se cite elle quand même, mais en fait elle donne accès à plein d'autrices que nous on connaissait pas de l'époque.
Elle critique aussi certaines femmes qui ont écrit de la SF et qui sont absolument Genre, ça ne va pas du tout, quoi.
Qu'est-ce qui vous attire peut-être là-dedans aussi, dans la science-fiction féministe, et peut-être cette époque-là, et pourquoi avoir fait autant de publications, de choses là-dessus, et bah, c'est quoi qui vous drive, je sais pas.
Bah parce que déjà, ça propose des alternatives sociales qui sont quand même très... pas forcément réjouissante, mais en tout cas qui nous donne une place différente de d'habitude et qui propose des schémas sociaux, politiques qui sont enviables ou en tout cas des critiques qui sont du système en place qui sont proches de ce qu'on peut ressentir aussi, même si ça existe dans d'autres bouquins, mais personnellement, je suis plus proche de la fiction. Enfin, je suis plus sensible à la fiction, de s'imaginer qu'on n'est pas obligé de traiter l'imagination que dans ce qu'on connaît et qu'on peut extrapoler des choses à leur max.
Oui, et puis c'est quelque chose aussi... Enfin, on s'en est rendu compte, justement, où il faut être toujours un peu en alerte et pas... Tout d'un coup, il peut y avoir... Il s'est passé ça, d'ailleurs, un moment dans la... dans cette convention, la Worldcon, qui est la plus grosse convention américaine. Et justement, il y avait, c'est vrai, beaucoup de prix qui avaient été donnés, je ne sais plus en quelle année, c'était, je crois, en 2014, peut-être, quelque chose comme ça, des prix qui avaient été justement donnés à des femmes, parce que depuis des années, il y avait eu presque que des prix qui avaient été donnés à des hommes, tout le temps systématiquement. Et du coup, il y avait eu un mouvement qui s'appelait les Sad Puppies. Parce qu'en gros, bon, faut imaginer le système de la convention où c'est les Américains qui payent leur ticket. Du coup, quand tu payes, tu votes. Toi, pour qui va avoir le prix Hugo, donc c'est le fameux prix. Il faut s'imaginer, oui, bah, des mecs alt-right blancs qui avaient décidé de boycotter le prix pour pas que des femmes...
L'aient.
Enfin, par exemple. Donc, comme quoi...
donc, ça prouve que c'est quand même politiquement assez important, quoi, aussi.
C'est au final, voilà.
Alice B. Sheldon à Joanna Ross, le 4 décembre 1976. Chère Joanna, dire que cette lettre est difficile à écrire serait le pire des euphémismes. Comment vas-tu réagir quand je te dirai que la personne avec qui tu as correspondu sous le nom de Trap Troop est en réalité Racuna Sheldon, alias Ali Sheldon, alias Dr. Alice B. Sheldon? Je ne mens pas, sauf pour la signature, qui s'est transformée au fil des années en un surnom de plus. James Tiptree Jr. est né à la fin de l'année 1967 dans le rayon des aliments d'un supermarché, alors que je cherchais un nom que les éditeurs oublieraient de rejeter. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que les romans allaient se vendre. J'ai commencé à converser avec tous les gens Tex que j'aime et admire depuis si longtemps. Mais ensuite, les amitiés épistolaires ont grandi, surtout avec des femmes, et j'ai pensé dans mon innocence que cette farce pourrait aider. Mais les amitiés sont devenues réelles. Je n'ai jamais écrit de trucs calculés ou de mensonges. Ce que je t'ai écrit, ou à quiconque, est vrai, vrai, vrai. Tout. Il est donc temps pour moi de cesser d'être une marque de confiture et d'écrire douloureusement à celles d'entre vous qui se sont liés d'amitié avec Tiptree ce que sont vraiment les faits. Je suis une femme retraitée de 61 ans, 1m74, 61 kilos, cheveux brunâtres tirant sur le gris, regard incurablement franc d'enfant, visage bosselé d'écrivain, porte surtout des jeans et des pantalons en velours, et est inquiète que depuis 30 ans, son mari devienne progressivement aveugle. Joe, tu peux le supporter? Mon Dieu, le nombre de fois où j'ai voulu m'écrier « Chère sœur, comme je sais bien ce que tu veux dire. » Mais je suis différente en raison de mon âge et de l'époque où j'ai été élevée, des féministes d'aujourd'hui. Elles sont peut-être plus pessimistes, plus conscientes de la structure du pouvoir masculin dans laquelle je me suis débattue pendant de longues années. Comme je vous admire, vous qui avez réussi en tant que femme, ouvertement. Je suppose que ce sont là tous les faits bruts. Si tu veux que je t'en dise plus, fais-le moi savoir, si tu parles encore à ton ami, Ali Racuna.
Peut-être on peut parler du climat de l'époque. On part des années 70 aux années 2000 et vraiment ces questions de conditions de travail, c'est vraiment adressé. Enfin, c'est vraiment, elle parle de ça beaucoup entre elles dans les lettres. Ouais. Et même il y a cette lettre où Alice B. Sheldon justement se pose la question si, enfin voilà, qu'elle se parle de, du coup, de cette révélation, de comment elle, elle c'est pour elle de d'écrire sous le nom d'un homme. Et...
Enfin, là, on revient en plus des archives de Tiptree, donc on a beaucoup plus d'informations là-dessus. Mais ce qui est assez drôle, c'est que enfin, Ali Sheldon, Tiptree, se sentait au fond, il y a beaucoup de lettres, très mal par rapport aux autres femmes de faire ça, quoi, parce que c'est un peu de la. Être traître, quoi, d'une certaine manière, quoi. C'était plus facile de vendre des bouquins sous le pseudonyme d'un homme. Et en fait, elle s'en rendait compte, puisqu'elle avait même recréé un autre pseudonyme qui était Racuna Sheldon. Et ça marchait pas aussi bien. Pourtant, Tiptree se recommandait soi-même au nom de, avec un pseudonyme de femme. Et voilà. Donc, comme quoi, ouais, bon, c'est une preuve. Peut-être qu'elles étaient moins bien ou pas, mais bon, je crois pas. Et donc. Je sais pas, oui, c'est vrai qu'il y a ce moment où elle l'écrit, puis elle se sent pas très bien quand elle annonce à Ursula. Ouais, enfin, en premier, je crois que c'est à Ursula, justement, après à Joanna Russ. Oui, enfin, elle pense qu'elles vont être un peu agacées de ça, quoi. Mais au contraire, il y a un soutien. Bon, aussi, Tiptree, c'est une autre génération, elle était plus âgée, donc je pense que. Mais après, c'est aussi pour
elle,
ça.
Elle n'a pas choisi de se révéler d'une certaine manière, c'est juste qu'il y a eu une histoire qui a.
Je pense qu'à un moment, à mon avis, il y allait avoir un moment où elle allait le faire, parce que je pense que c'était plus tenable. Mais oui, enfin bon, ça, vous le verrez dans les prochains.
Ouais,
le prochain livre.
Non, mais en gros, il y a sa mère qui est décédée et il y a son éditeur qui est tombé sur la nécrologie de sa mère. Qui a fait le lien par rapport aux dates de naissance et de lieux de vie, etc. Et qui s'est rendu compte que cette personne n'avait jamais eu de fils. Et donc, en fait, c'était pas possible que Ali Sheldon soit un homme.
Et il y avait beaucoup de doutes. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de doutes, parce que c'est ça qui était assez drôle avec Tiptree. Bon, là, on va parler plus de Tiptree, mais c'est pas grave. Elle est un personnage marrant. Oui, elle est aussi beaucoup dans le livre. Mais il y avait quand même pas mal d'écrivains hommes, en tout cas, qui tout le temps étaient là. Mais non, impossible, ce n'est pas une femme. Jamais une femme n'aurait écrit quelque chose comme ça. Bon, bref, je sais pas, c'est assez drôle, quoi, la manière dont ça, à chaque fois, ça se...
Mais ça parle aussi du climat, quoi, ça parle vraiment
oui,
de...
ça parle de...
En fait, c'est impossible qu'une femme ait autant de succès.
Mais c'est quoi, c'est Silverberg qui avait... Non, c'est pas Silverberg, c'était qui un méga
Herbert,
écrivain qui a vraiment écrit dans un journal que...
Si, c'est Silverberg.
Qui a dit, mais après qui s'est excusé...
Robert Silverberg.
Qui a dit, c'est impossible qu'une femme ait écrit ça, c'est trop bien, en gros. Et quand elle a révélé son identité... Et
ils étaient très proches. Surtout, ils étaient vraiment des milliers.
Mais ils ne se voyaient pas, ils s'écrivaient.
Non, mais ils ne savaient pas, pareil, comme... Oui, voilà, elle écrivait
mais
à
ça,
tout
le monde. C'est le truc qui est intéressant, je pense, c'est qu'on parle de gens qui s'écrivent en permanence, mais quasiment aucun ne se sont vus
se voient
vrai.
Très, très peu, en fait. Ils habitent tous aux États-Unis et sont même... Bah, justement, là, on a pu rencontrer Samuel Delany dans notre dernier voyage. Et donc, on lui a posé pas mal de questions parce qu'il avait... C'était une des personnes les plus proches, enfin, de Russ, mais au final, il nous a dit que c'était pas vu tant que ça.
Non,
quoi.
Ils se sont vus genre 5 fois.
Ouais.
Alors qu'ils s'écrivaient mais... des centaines de lettres, genre tous les jours quasiment.
Coucou, ça va, quoi, le matin, enfin, en lettres. C'était vraiment automatique, une lettre par.
Justement, elle est là, mais je comprends pas parce que c'est vraiment le seul homme avec qui je m'entends bien
oui.
Et avec qui j'aime écrire des lettres et tout. Et même, elle lui dit à James Tiptree dans des lettres, genre. Genre vraiment, elle a de l'amour pour... j'ai de l'amour pour vous et tout. Et en fait, c'est hyper intense. Et James Tiptree correspondait aussi avec plein d'autres autrices et correspondait aussi avec plein d'auteurs d'ailleurs. Mais il n'y avait pas... Enfin, pour moi, c'était pas... elle poussait pas
c'était
un truc
pas
de misogynie
pas
parce
un masque, quoi.
Que sinon, elle n'aurait pas pu être liée comme ça d'amitié avec autant de femmes qui, à l'époque... était vraiment engagée politiquement, quoi.
Mais après, du coup, pour...
Bah, sur les questions économiques, après, nous, on s'est rendu compte que la plupart, elles étaient profs aussi, à côté de leur écriture. Et qu'aussi, elles se rendaient des services. Enfin, on sait qu'il y avait quand même une sorte de réseau... elles étaient quand même beaucoup et elles s'aidaient quoi quand même pour se faire un peu publier un peu plus quoi. Mais c'est, je pense que c'était quand même assez niche à mon avis.
Oui, parce qu'à un moment, nous, on a retrouvé une lettre où c'est un contrat où elle demande à Playboy de le publier, mais je pense que c'est un peu...
Mais elle est dedans.
Oui.
Où ils lui disent non. Parce qu'elle a envoyé une nouvelle à Playboy.
Voilà.
moi, j'ai un peu des questions sur la traduction ou comment traduire en français. Il y a seulement The Female Main qui a été traduit comme roman et qui a été traduit avec la première fois, c'est quoi, L'autre moitié de l'homme comme titre. Mmh. Au lieu de The Female Man, c'est très loin. Et maintenant, on a l'édition où c'est écrit L'humanité femme, donc c'est encore un autre. Je ne sais pas, c'est quoi votre. Peut-être c'est aussi lié à cette envie de publier ce livre, d'avoir une manière peut-être plus juste de traduire ou de que les mots soient peut-être plus près.
Après, il y a l'histoire de l'écriture inclusive, nous qui étions déjà dans les readers.
Déjà dès le début, on proposait à toutes les personnes qui traduisaient d'utiliser l'écriture inclusive qu'ils et elles voulaient. Après, je pense que ça s'est un peu harmonisé au fil du temps parce que y avait aussi, dans le discours, on va dire, militant et dans les milieux de la traduction, il y a eu un peu plus d'harmonisation et tout ça. Mais Kambouraki, c'est une maison d'édition qui permet aussi de publier avec de l'écriture inclusive qu'on choisit. Pour la traduction, en fait, on a quand même. Pris le parti de pas décider à la place du texte, quoi, quand on savait pas. Soit il faut faire des recherches pour comprendre et du coup ça prend du temps, ce qui est arrivé quelques fois parce qu'on n'avait pas forcément les références, soit on utilise l'inclusif pour représenter le plus de monde possible. Par exemple, pour The Female Man, c'est un titre qui est très difficile à traduire. Nous, on avait proposé une traduction, mais qui était un peu absurde, mais ça se prononce même pas. C'était LX et femal écrit genre FEMA, accent circonflexe LE.
Et parce que la première traduction, c'était quoi ? C'était
L'autre moitié
de l'homme. Oui, voilà. Par contre, juste pour venir, il y a eu d'autres romans qui avaient été traduits à Pique-Nique au Paradis. Certains Alix, je pense, il y avait
des gens extraordinaires.
Vous avez parlé des recherches que vous avez faites, de rencontrer Delany et d'être allé dans les archives de Tiptree.
Ouais.
Et c'est quoi l'idée derrière ça? Est-ce qu'il y a un autre livre? Qu'est-ce que vous voulez faire?
On a dans l'idée de faire plutôt un travail film sur Tiptree, mais pour l'instant on vient de rentrer des États-Unis, donc on est encore en train de trier. Toutes les archives, parce qu'on a passé une semaine là-bas, ce qui est à la fois beaucoup et à la fois très court, parce que du coup on n'a pas le temps de tout lire et donc on fait beaucoup de photos, de documents, tout ça. Mais moi j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on s'est rendu compte aussi de la. Que par exemple, Alice Sheldon, elle correspondait énormément avec Ursula Le Guin, ce qu'on ne soupçonnait pas du tout. Qui était une femme qui avait plutôt son âge. Et donc, il y a aussi des choses de génération parce qu'elle ne s'adresse pas à Joanna Russ de la même façon et elle ne parle pas exactement des mêmes choses et tout. Mais là, le travail qui va arriver, c'est plus de défricher tout ça et de lire énormément. L'avantage, c'est que les lettres, elles sont quand même écrites à la machine la plupart du temps, ce qui est plus simple.
Jusque dans les années 50, quoi, parce qu'après, toute la première partie de sa vie, c'est en carnet, quoi. Et elle est née en
1915. Et elle est morte en 1991 d'un meurtre-suicide.
Ah oui, oui.
Elle a tué son mari et elle s'est tuée juste après. Voilà. Donc, vie un peu épique. Ouais. Parce qu'elle a aussi travaillé, donc, comme tu disais, pour la CIA. Elle a été docteure en psychologie expérimentale, critique d'art.
Oui, donc aussi au-delà de la science-fiction. Oui, elle était peintre, critique d'art, donc il y a plein de textes aussi là-dessus. Elle était très spécialisée justement dans en psychologie sur les questions d'art visuel aussi.
Elle était analyste de photos aériennes pour l'armée de l'air à un moment donné.
Mais tout ça de manière très sérieuse, c'était pas du tout de manière dilettante. C'était...
Dans ses papiers, on a retrouvé les manuels, tout ça. Enfin, c'est vraiment quelqu'un en plus qui était assez...
Cérébral.
Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à trier pour l'instant.
Alors, par rapport à votre livre, comment vous faites pour... Parce que ce sont des textes, plus de, des correspondances, comment vous faites pour créer une trame dans ce livre, qu'il y ait quand même un sens à ce qu'on lise. Puis la deuxième question, c'est, je crois que dans une de vos collections qui est juste passée, il y a une lettre où on demande à Johanna si elle ne veut pas être jury de, pour un prix.
Oui, ouais, ça va être pour ça, pour le titre.
Et puis, donc la question, ça serait, ben, quelle est sa position justement sur, ben, sur le genre? Comment elle se positionne?
Ben justement, c'est, ben, ça c'est intéressant parce que ben justement dans le livre, il y a une interview qu'elle a faite très peu de temps avant de mourir, c'était en 2008, je crois. Elle est morte deux ans, trois ans plus tard. Où en fait Delany, donc, qui était un peu son besta, l'a interviewée au téléphone pendant la WISCON, justement la convention dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, justement, il lui pose la question, parce qu'elle est vieille et elle avait une maladie, le syndrome de la fatigue chronique. Donc elle a arrêté, elle a arrêté d'écrire finalement plutôt jeune, enfin, vers 50-60 ans, quoi. Et elle en parle beaucoup dans les lettres parce qu'en fait, elle était très handicapée par ce truc-là. Quand Delany lui pose la question en 2008, elle dit bah, « En fait, moi, je suis trop vieille. Genre, je regarde Buffy contre les vampires chez moi. J'écris plus depuis 20 ans. Donc, je me sens pas de donner mon avis sur les réflexions féministes aujourd'hui parce que j'ai l'impression que je suis un peu dépassée. »
Et que d'autres personnes le feront
mieux.
Oui,
que d'autres personnes le feront mieux que moi. Et après, sa position sur le genre, elle est limitée à quand même son époque, on va dire, sur les théories qui n'étaient pas les mêmes. Mais par contre, elle a écrit pas mal de nouvelles, justement, qui mettent, notamment dans ce livre qui est traduit en français, qui s'appelle « Des gens extraordinaires », dans lequel il y a pas mal de nouvelles qui mettent en jeu des histoires de travestissement. Donc, je ne sais pas si elle aurait appelé ça... Enfin, je ne sais pas si elle avait une réflexion par rapport aux personnes trans, par exemple. Moi, je n'ai pas trouvé dans ses écrits, enfin, dans ce que j'ai lu.
Oui, non, on n'a pas de trace là-dessus, en tout cas.
Mais par contre, elle avait quand même une réflexion qui est visible sur la fluidité entre les... Et je pense qu'à l'époque, c'était plutôt homme-femme qu'autre chose. C'est l'endroit, moi, où j'ai trouvé le plus son point de vue, enfin, où ça ressortait plus, quoi. Après, elle était quand même plutôt dans un truc lesbien, donc...
Carrément,
oui. Oui, mais je veux dire, sur l'échelle du militantisme, on va dire, elle était plus dans un truc en mode lesbienne que la pluralité, etc. Mais je pense que c'est aussi une question d'époque.
Mm-hmm. Mais de female men dans le livre, elle s'appelle Johanna aussi.
Oui, tout en coup, J, en tout cas, dans tout
ouais,
le prénom.
Ça, c'est presque...
Elle, oui, mais c'est ouais, pour ça. Il ouais. y a des petits endroits comme ça où on peut voir qu'elle s'intéresse quand même à une sorte de fluidité. Mais je pense que aussi il y avait pas le même discours à l'époque en tout cas pas les mêmes mots. Mais d'ailleurs c'est aussi le cas dans la communauté Gwyn, qui est que si on prend des couples dans les années 50 ou quoi, où c'était vraiment les rôles étaient vraiment en mode, il y avait celle qui faisait l'homme et celle qui faisait la femme, et que aujourd'hui peut-être on en parlerait d'une façon totalement différente. Et que donc voilà, je pense qu'après, tout est à remettre un peu dans son contexte, quoi. Voilà.
On est sur la question de la trame.
Ah oui.
Ça, c'est un peu notre choix de ne pas avoir fait... Il n'y a pas vraiment de...
À part dans les archives qui sont dans l'ordre alphabétique. Chronologique.
Nous, c'est comme ça qu'on a fait, parce qu'aussi, on n'a pas une approche universitaire nous-mêmes, quoi. Enfin, on ne vient pas de ce milieu-là, donc ça a été très... free, quoi, pour nous de faire ça. Et en même temps, du coup, peut-être plus facile. Enfin, je sais pas. Parfois, quand t'as pas les codes, tu les fais sans, quoi. De manière...
Mais ce qui est intéressant avec elle, c'est que justement, elle, c'était une universitaire vraiment hardcore. Enfin, elle a été prof pendant hyper longtemps. Elle écrivait beaucoup de théories. Elle lisait énormément de théories et tout. Mais je trouve que ses essais, ils sont quand même très accessibles. Et c'est ça, moi, que je trouve... aussi intéressant que ce soit accessible en français, parce que ça n'ait pas l'air d'être un champ qu'on peut pas trop approcher théoriquement, tout ça, quoi. Can we save ourselves, or is Earth just doomed to be ghetto, ghetto, ghetto? Earth is ghetto, I wanna leave, can you beam me up? I'm out on the street by the corner store, you know.
15th. Got a bright shirt on, so I'm easy to see. I've been down here.